Bienvenue à tous sur Média, sur Média.com également. Nous sommes toujours ensemble et je le disais donc, on parle ce matin de phlébite. Alors quels sont les facteurs favorisant l'apparition de phlébite? Quels peuvent en être les dangers? Comment la soigner? On fait le point aujourd'hui avec un spécialiste, professeur Nabil Setri. Bonjour.
Bonjour Mariam.
Vous êtes chirurgien vasculaire, vous êtes également angiologue et phlébologue. Alors d'abord, comment peut-on définir la phlébite et puis quelles en sont les différentes formes?
Eh bien, la phlébite, c'est un terme qui correspond à toute thrombose veineuse. On parle également de thrombophlébite.
Oui.
Et c'est la formation d'un caillot sanguin au niveau d'une veine. Du coup, cette phlébite, elle peut se localiser partout dans le corps, au niveau cérébral et au niveau digestif.
D'accord.
Mais la localisation la plus fréquente reste de loin quand même les thrombophlébites des membres inférieurs. On distingue principalement deux formes. Les phlébites superficielles, qui sont presque toujours des mains, et puis les phlébites profondes qui sont beaucoup plus graves, car en absence de traitement, l'évolution peut être défavorable avec extension du thrombus et engageant le pronostic fonctionnel de la jambe et aussi le pronostic vital.
Quels peuvent en être les symptômes, professeur Setri?
Ben écoutez, en fonction de la localisation, c'est-à-dire dans une phlébite superficielle, les symptômes ils vont ressembler à un cordon qui est dur, qui est douloureux. C'est une inflammation de la veine qui peut se situer sur le trajet d'une veine superficielle, qu'elle soit auparavant saine ou bien varicose. Au contraire, dans les thrombophlébites profondes, les symptômes sont de loin beaucoup plus bruyants, avec une douleur. Cette douleur qui est très caractéristique, qui peut être spontanée, située au niveau du mollet, ou bien provoquée par la mobilisation du pied. Et on parle du signe de Homans, c'est une grosse douleur du mollet lorsqu'on fait une dorsiflexion du pied. À côté de cette douleur, on va avoir un œdème, un gonflement de la jambe, une peau qui va être rouge, inflammatoire, avec des veines qu'on peut voir en surface, on parle de veines turgescentes.
Alors, professeur Setri, quels peuvent être les facteurs de risque et les causes de cette maladie?
Écoutez, on peut rassembler les facteurs de risque en une triade qui est décrite depuis plus d'un siècle par un médecin allemand, Dr Virchow. Donc on va parler d'une triade de Virchow que la plupart des médecins, que tous les médecins connaissent. Eh bien, c'est quoi cette triade? C'est lorsqu'on aura trois facteurs qui sont associés. Une stase veineuse, une altération de la paroi de la veine, avec des modifications de la composition du sang, et on parlera à ce moment-là d'une hypercoagulabilité. Alors, si on veut parler de la première composition de cette triade, quels sont les facteurs qui vont favoriser la stase veineuse? Eh bien, c'est l'immobilisation prolongée. Cette immobilisation, qu'elle soit après intervention chirurgicale, après accouchement, en traumatologie avec ou sans pose de plâtre, on peut avoir aussi une grosse stase veineuse chez certains patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque.
D'accord.
À côté de la stase veineuse, il y a, comme je l'ai dit, la deuxième composition, c'est l'altération de la paroi veineuse. Cette altération peut toucher la paroi interne ou bien la paroi externe de la veine. L'exemple le plus fréquent, c'est le syndrome de Cockett. C'est quoi le syndrome de Cockett? C'est une anomalie congénitale que beaucoup de gens ils ont et qui ne sont pas au courant qu'ils ont ça. Et ça va entraîner des sénéchies, c'est-à-dire des petites membranes qui vont empêcher le retour veineux du membre. Généralement, ce syndrome il est situé sur le côté gauche, sur les veines iliaques gauches. C'est pour cela que la majorité des thrombophlébites sont justement situées sur le membre inférieur gauche. Donc on a parlé d'une triade, on a parlé de la première composition qui est la stase, la deuxième composition c'est l'altération de la paroi. Eh bien, la troisième composition, c'est des anomalies de la composition du sang. Et on va parler d'une thrombophilie, une hypercoagulabilité. Cette hypercoagulabilité peut être secondaire, par exemple, chez certains patients suivis pour un cancer, chez certaines femmes qui prennent une contraception orale, ou une thrombophilie essentielle, primaire, qui est due à certaines anomalies génétiques qui font que le sang il a plutôt tendance à se coaguler à la moindre occasion.
Est-ce qu'on peut parler de personnes à risque? Et puis, est-ce qu'il existe un âge auquel on est plus exposé à la phlébite?
Ben écoutez, si on a bien compris les facteurs de risque, on peut facilement deviner quels sont ou bien quelles seront les personnes à risque.
Absolument.
Voilà, donc facilement, on va dire que toute personne alitée suite à une chirurgie, suite à un accouchement, après un traumatisme, elle a un risque de thrombophlébite. Une jeune femme qui prend la pilule, surtout s'il y a un tabagisme ou il y a une obésité qui est associée. Certains patients qui sont suivis pour un cancer, surtout si leur état est gravataire avec un alitement prolongé, eh bien, toutes ces personnes, elles ont un risque majeur de développer une thrombophilie.
Alors, comment posez-vous le diagnostic, professeur Cédré? Je rappelle que vous êtes chirurgien vasculaire.
Alors, bah, écoutez, le diagnostic, il est très facile. Le diagnostic est très facile parce qu'il est basé sur l'interrogatoire, sur l'examen clinique. Hein. Rappelez-vous, on aura ces douleurs très caractéristiques au niveau du mollet avec un gonflement du mollet.
Oui.
Alors, le diagnostic, en plus du diagnostic clinique, on peut utiliser certains tests sanguins, comme le dosage des dédimères, que lorsqu'ils sont élevés, ils peuvent indiquer la présence d'une ou bien la formation d'une thrombophlébite. Et on fera un examen basé sur les ultrasons et l'échodoppler veineux qui va nous permettre de visualiser le thrombus et éventuellement d'orienter la stratégie thérapeutique.
Alors en termes de traitement, professeur Cédré, est-ce qu'il y a un ou plusieurs traitements adaptés?
Le but du traitement, premièrement, éviter l'extension de la thrombose, éventuellement la survenue des complications. C'est obtenir une recanalisation de la veine, c'est-à-dire une reperméabilisation de cette veine qui était bouchée. Et secondairement, éventuellement, s'il y a une cause qui était à l'origine de la thrombophlébite, bien, il faut traiter cette cause. Alors, le traitement, il repose sur les anticoagulants qui vont être mis en place le plus rapidement possible et dont la durée va être en fonction du risque et va aller de 6 mois à 1 an. À côté des anticoagulants, on va prescrire une contention veineuse, une contention élastique qui va permettre une vidange de ces veines qui sont thrombosées avec amélioration des douleurs et de l'œdème.
Professeur Nabil Cédré, quels seraient risques ou ces dangers donc si la phlébite n'est pas prise en charge à temps donc?
Alors la principale complication redoutée reste l'embolie pulmonaire, donc en absence de traitement. Le caillot, le thrombus, il a de fortes chances de se détacher de la paroi vasculaire et de migrer au niveau du cœur, puis dans la circulation pulmonaire, avec une difficulté respiratoire majeure, il peut être malheureusement mortel. Une autre complication,
oui,
c'est l'ischémie des membres. Et on parlera à ce moment-là de phlébite ischémiante, qui sont dues à une augmentation de pression au niveau de la jambe, qui va empêcher l'irrigation artérielle du pied, et on peut avoir une vraie ischémie consommée avec un risque d'amputation. Donc ça, c'était les complications les plus graves. Maintenant, même après guérison de cette phlébite, on peut avoir d'autres complications. La principale complication, c'est la maladie post-phlébitique, ou bien le syndrome post-phlébitique qui peut apparaître quelques mois à quelques années après une thrombose veineuse et qui est due à une altération du retour veineux et qui va causer un œdème qui va être permanent. Un œdème qui est douloureux, avec des varices secondaires et avec des problèmes cutanés récidivants, avec des dermites et des ulcérations de la jambe.
Alors justement, quand est-ce que la chirurgie devient nécessaire, professeur Cédré?
Alors dans la majorité des cas des thrombophlébites des membres inférieurs, le traitement médical à base d'anticoagulants est efficace et on aura une amélioration spectaculaire dans les jours qui suivent un traitement qui est bien conduit.
Oui.
Maintenant, si on a des formes d'emblée compliquées, notamment d'embolie pulmonaire grave ou bien de thrombophlébite ischémiante, à ce moment-là, on peut recourir à des techniques, qu'elles soient chirurgicales ou qu'elles soient endovasculaires, et dont le but est d'évacuer ce caillot. Donc les indications chirurgicales restent graves, et c'est des interventions chirurgicales qui doivent être faites dans des centres de référence.
Est-ce qu'on peut prévenir, docteur Cédré, la phlébite?
Oui, on peut prévenir la phlébite si on va diagnostiquer les personnes qui sont à risque. Donc les conseils qu'on peut donner à cette personne à risque,
oui,
c'est justement de porter des bas de contention, c'est de marcher et de bouger les jambes régulièrement,
mmh,
c'est de s'hydrater régulièrement, surtout s'il y a un long voyage en avion par exemple. On va verticaliser les patients, donc il faut lutter contre l'alitement prolongé. Il faut arrêter impérativement la consommation de tabac ou de certains traitements qui favorisent la survenue de cette libide, comme la contraception orale chez certaines femmes. Et on va lutter, bien entendu, contre le surpoids et l'obésité. Après, pour les patients qui sont hospitalisés en hôpital, lorsqu'on identifie ces patients qui sont à fort risque, les médecins peuvent recourir à la prescription de certains médicaments qui vont justement empêcher la thrombophlébite. Et on parlera à ce moment-là d'une anticoagulation préventive.
Parfait. Professeur Nabil Setri, je rappelle que vous êtes angiologue, vous êtes phlébologue et chirurgien vasculaire à Rabat. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions sur Média.
Merci beaucoup Mariam et à la prochaine.
À très bientôt et c'est un entretien réécoutable sur notre site media.com.